Avec Baptiste Gabory.
Bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Gaël, bonjour à tous.
Une revue de presse à l'heure espagnole, tiens.
À la fraîche, avant que les températures ne grimpent encore aujourd'hui, 35-36 degrés dans cet été décidément caniculaire. Alors, vous allez me dire, c'est l'heure habituelle pour la revue de presse, et vous avez raison. Mais pour nos autres activités, on vit désormais comme à Madrid, nous raconte ce matin Le Parisien, ou comment les vagues de chaleur ont changé nos habitudes. Activité tôt le matin, rue déserte à 16h et terrasse bondée à 21h. Certains établissements ont même décidé de fermer l'après-midi, faute de clients. Apprendre à semer la chaleur, alléger nos déjeuners, se protéger. Faudra-t-il aller plus loin? Interdire les plages, par exemple, aux heures les plus chaudes? Peut-être, répond un urgentiste. Dans les écoles aussi, il va falloir s'adapter. La journée d'école pourrait se concentrer entre 8h et 14h, comme en Espagne. Autre solution, rallonger les vacances d'été. Les petits Espagnols, Grecs, Portugais ou Italiens bénéficient ainsi de 3 mois de vacances d'été, de mi-juin à mi-septembre, pour éviter les semaines les plus chaudes en classe. Après cet été brûlant, écrit Ève Roger, ce chamboule-tout dans l'emploi du temps des écoliers semble inévitable en France. Débat orageux en perspective.
Moi, je veux bien vivre à l'heure espagnole, mais seulement s'il y a des tapas à 22h à Radio Classique.
C'est vendu.
Des vacances alors varoises pour le chef de l'État.
Vacances discrètes et studieuses, nous explique ce matin Arthur Berda dans Le Figaro. Pour Emmanuel Macron, le président est au fort de Brégançon, dans le Var. Une sortie en canoë, une autre en jet-ski, un dîner dans un restaurant du Lavandou. Mais le chef de l'État continue à travailler, affirme un conseiller. Il faut préparer une rentrée qui s'annonce chargée.
Et ça n'a absolument aucun lien, mais le beluga a été sorti de la Seine.
On vous en parlait dans le journal de 8h. Des examens de santé sont en cours. En fonction des résultats, le cétacé prendra la route dans un camion réfrigéré vers un bassin d'eau de mer dans le port de Ouistreham. En attendant, que faisait-il dans la Seine? C'est la question que se pose ce matin, Le Figaro. Beaucoup de mystères et autant d'hypothèses pour cet animal qui vit habituellement dans les eaux arctiques. A-t-il été désorienté par la pollution sonore émise par les activités en mer, l'extraction de gaz au large de la Norvège, par exemple, ou encore les éoliennes offshore? Possible, répondent les experts. Les changements de température de l'eau aussi ont pu modifier les sillons marins et tromper le beluga. Enfin, dernière hypothèse, nous avons affaire ici à un cétacé trop curieux. On voit des dauphins et des cachalots qui sont de vrais explorateurs, explique ainsi un océanographe. Ces dernières années, d'autres bélugas ont ainsi été observés à des latitudes inhabituelles à San Francisco ou à Londres, par exemple.
Allez, tout autre chose. Des maternités au bord de la rupture.
C'est dans La Croix ce matin. Les sages-femmes n'en peuvent plus, se désole Anthony Bouvier, le vice-président de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes. Dans certains services, une seule est présente pour 30 mamans et 30 bébés. Situation critique. Un peu partout, il manque du personnel, des conditions de travail difficiles, des salaires pas assez élevés. À l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon, 10% des sages-femmes manquent à l'appel. Résultat, le nombre d'inscriptions dans la maternité a été réduit de 10 à 15%. En Ile-de-France, l'agence régionale de santé, elle, a mis en place une cellule de crise, notamment pour organiser les transferts de femmes sur le point d'accoucher dans certaines maternités qui sont saturées. Et ça ne s'arrangera pas à la rentrée, préviennent les syndicats. Les maternité en souffrance dans La Croix, donc, et la descente infernale de la gériatrie dans le monde. Reportage à l'hôpital de Mulhouse où 37 postes sont vacants dans le service gériatrie. 14% des infirmières sont en arrêt maladie. Dans les chambres sous les toits, la température atteint 30 degrés. Et Mulhouse n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les fermetures de lits se multiplient. 28 à Auch, 50 à Nice. La prise en charge se dégrade. Les courts séjours se multiplient pour faire de la place, sans parcours de soins approprié, un modèle dégradé, un constat d'échec, une descente infernale, résume la présidente de la Société française de gériatrie dans le monde.
Un spectre hante l'Europe, celui de Tchernobyl.
À lire ce matin dans Les Échos, sous la plume d'Yves Bourdillon, déjà dans le studio de Radio Classique, et que vous retrouverez dans quelques instants. Le souvenir de la pire catastrophe du nucléaire civil plane sur l'Ukraine après des tirs de missiles sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, centrale occupée par l'armée russe depuis le mars dernier et qui est redevenue ces derniers jours une zone de combat. Vendredi, des roquettes ont endommagé une des stations de production d'azote à proximité des bâtiments de stockage d'effluents radioactifs, des attaques qui ont provoqué un vent de panique en Europe et dans le monde, écrit aussi Libération ce matin qui titre « Zaporizhzhia, nouvelle menace de dissuasion massive ». Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mettre en danger le site. C'est à lire aussi dans Le Parisien ce matin. Zaporizhzhia, champ de bataille hautement sensible. Et les missiles ne sont pas la seule menace. L'environnement de travail aussi, précise Le Quotidien, avec des employés qui travaillent désormais sous occupation des forces russes et sous le stress des bombardements, ce qui fait planer inévitablement le risque d'une erreur humaine.
Cette phrase énigmatique, le cyber épaissit le brouillard de guerre.
C'est dans Libé, toujours depuis le début de l'invasion, les attaques informatiques venues de Russie se sont multipliées. Un exemple, la cyberattaque qui, au moment même du début de l'invasion russe, a rendu inutilisables des dizaines de milliers de modems reliés au réseau européen d'Internet par satellite, Kassat, modems utilisés entre autres dans l'armée et les services de sécurité ukrainiens. Des raids qui n'ont pas eu d'impact majeur sur le conflit, précise toutefois Libé, Kiev étant bien préparé. Enfin, la Russie en pleine campagne de recrutement, c'est dans le Figaro ce matin. Plus de 40 nouvelles unités de volontaires composées de 90 à 500 hommes auraient déjà été formées. Un argument de choc, le salaire de 2000 à 5000 dollars, une véritable fortune dans certaines régions russes. Les mêmes d'ailleurs qui connaissent, selon plusieurs enquêtes, la proportion la plus élevée de pertes militaires par rapport à leur population. Selon les renseignements américains, 70 à 80 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre.
Allez, pour finir rapidement, c'est un visage en pleine page de L'Équipe, celui d'une immense championne.
Celui de Serena Williams, légende du tennis, l'américaine, bientôt 41 ans, a annoncé hier dans le magazine Vogue sa future retraite, probablement à la fin de l'US Open le mois prochain. Serena Williams, 25 ans de carrière, 23 titres du Grand Chelem, un quart de siècle au sommet, unique et universelle, adulée ou détestée, simple et complexe, exubérante et secrète. En 25 ans, Serena Williams a tout chamboulé, quitte à dérouter ou déplaire, écrit ce matin Sophie Dorgan dans L'Équipe. Serena Williams, le rêve américain dans toute sa splendeur. Elle, la petite fille de Compton, un quartier défavorisé de Los Angeles, devenue une star mondiale, une star globale, amie de Beyoncé, du couple Obama, de Harry et Meghan Markle, capable d'utiliser sa notoriété pour s'engager dans les mouvements de lutte contre les discriminations aux États-Unis, de médiatiser aussi son accouchement difficile. Serena Williams, devenue aussi redoutable femme d'affaires, elle a fondé notamment une société d'investissement, pris départ dans une équipe de football américain. Elle a défoncé toutes les barrières, poursuit L'Équipe, changé le jeu, propulsé la puissance au rang de banalité. Son héritage est immense. Respect.
Merci beaucoup Baptiste Gabory. Vous défoncez toutes les barrières de la revue de presse. Bravo à vous. Il est 8h44. Yves Bourdillon.